intéressant que dans la philosophie grecque, au fond, sauf les stoïciens, aucun n'avait parlé de la personne. Les néoplatoniciens, c'est hypostasis. C'est pas la personne. Et Aristote et Platon, c'est l'âme. Et c'est très intéressant de voir que toute la philosophie grecque, dans ce qu'elle a de plus profond, regarde le problème de l'âme ou le problème de l'hypostasis. Et que le problème de la personne ne se trouve que chez les stoïciens. On va se demander pourquoi, du reste. Alors que chez les modernes, je crois que c'est vraiment le problème majeur. Vous voyez, vous pourriez vous poser la question de cette manière-là.
Platon,
ils font la synthèse. pensée synthétique, la néopensée néoplatonicienne, ce n'est pas une pensée pure. C'est un commentaire de Platon. Ce n'est plus des philosophes au sens absolu. C'est l'ère des théologiens qui commence. C'est très curieux. Hein. Ça commence les commentaires, les théologiens, les exégètes, quoi. Plotin est exégète de Platon. Pas du tout Aristote. Pas les stoïciens. Pas les épicuriens. Chez les épicuriens, ne parle pas de la personne. Les néoplatoniciens vont parler du problème de l'hypostasis. L'hypostase. Les trois hypostases. Donc, c'est quand même quelque chose de très différent. C'est plus la personne. L'hypostase, c'est la subsistance. C'est l'aspect fondement, avant tout, dans l'ordre de l'être. Mais c'est quand même quelque chose de métaphysique. Alors voyez, cette chose très intéressante, c'est que les néoplatoniciens comprennent qu'il y a quelque chose de fondamental dans l'ordre de l'être, dans l'ordre de la substance. Dans l'ordre de l'autonomie des premiers. Mais les n'auront pas personne. La personne sera beaucoup plus prise du côté de la béatitude et de la finalité. Je crois. C'est un gros tir, si vous voulez, du langage philosophique grec. C'est avant tout ce problème-là. C'est que la personne naît à partir de la finalité. Les théologiens, donc, reçoivent de Boès, philosophe, le nom, le mot personne, et ils l'amenuisent énormément à leur théologie, de sorte que la réflexion sur la personne est avant tout et premièrement théologique. Ensuite, au plan philosophique, ce sont les modernes, la philosophie, qui a repris sa vigueur et qui s'est retournée vers le problème de la personne. On ne peut pas dire que chez Descartes, le problème de la personne soit central. Je ne crois pas. C'est le problème de la substance. Donc, ce n'est pas lui du tout qui est au point de départ. Je crois que c'est beaucoup plus l'aspect éthique qui va nous donner le problème de la personne. Donc, de nouveau, nous retrouverons le problème des opérations qui qualifient l'homme. Et on peut dire que, dans ce que nous avons vu la dernière fois, sur la conception schellérienne de la personne, c'est une conception qui se fait à partir des opérations spirituelles de l'homme, vues du côté du vécu. Et c'est cette conception-là qu'on retrouvera, au fond, presque chez tous. L'aspect métaphysique de la personne est complètement perdu. On le verra tout à l'heure avec Heidegger, voir si Heidegger essaie de retrouver le problème métaphysique de la personne avec le problème de l'être. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir que constamment, il y a les deux. Et la difficulté, c'est d'unir les deux, ça c'est sûr. L'aspect opération qui me semble important, qui me semble vraiment lié à la personne, et l'aspect métaphysique, substance. La conception de Max Scheller de la personne est donc complexe. Je relis un tout petit peu ce qu'on avait vu la dernière fois, et puis je termine ces quelques réflexions. Ce qui est net cependant, c'est le rejet de la personne considérée comme chose. Ça, c'est net. Mais avec la caricature de la personne comme chose, on rejette la substance. Je crois que ça, c'est très très important à noter, que le problème de la substance est rejeté dans la philosophie contemporaine à cause de la caricature. Et cette caricature, elle vient de Descartes. Descartes n'a pas saisi la substance métaphysique. Il a saisi des modalités de la substance. Il a saisi des modalités de la substance comme sujet. Donc, comme l'X inconnu. Le rejet de la personne considérée comme chose, comme substance, comme sujet possédant des pouvoirs. Voilà ce qui est rejeté. On ne veut pas de ça. Mais alors, en rejetant la caricature d'une chosification de quelque chose, on rejette tout l'aspect métaphysique. La personne est unité immédiatement co-vécue du vivre par expérience vécue. Cette chose importante à saisir, elle est l'unité d'existence concrète. Elle est elle-même essentielle. C'est par le point de vue de l'unité qu'on garde la substance. On revient à l'aspect tout à fait premier de la substance de Platon. La déesse qui demeure. Il y a quelque chose qui demeure. Ah, c'est pas la la substance, parce qu'on pense à la substance comme une chosification. Mais en rejetant l'aspect chose, on garde cependant l'unité d'existence concrète. Elle est elle-même essentielle. Si l'être de la personne fonde tous les actes essentiellement divers, cet être n'est pas un point de départ vide, donc un X. C'est un être concret ramenant à l'état d'essentialité concrète les actes. C'est ce qui donne aux actes leur structure permanente. Vous voyez ? Quelque chose qui demeure. Parce que dans l'acte, il y a le devenir, dans tout acte, et puis il y a quelque chose qui demeure. Vous voyez ? Au fond, ce serait l'aspect qualitatif de l'acte. L'aspect de l'immanence de l'acte. Donc, si l'être de la personne fonde tous les actes essentiellement divers, cet être n'est pas un point de départ vide. C'est pas une puissance. C'est ça que ça veut dire. C'est pas une capacité. C'est un être concret ramenant à l'état d'essentialité concrète les actes. La personne est présente à l'accomplissement de ses actes. Elle est présente dans le vivre par expérience vécue. C'est bien cette unité dans l'exercice. Ce qui demeure dans l'exercice. C'est pourquoi, si le mot personne, à la différence du je, est un terme absolu, ce qui se suffit à soi-même, il ne peut comprendre, il ne peut cependant se séparer de ses actes. Donc, on n'identifie pas du tout le jeu psychologique à la présence. Hein. Le jeu d'ordre psychologique est subjectif. La présence est quelque chose d'absolu. Quelque chose qui demeure. L'essence de la personne est de n'exister et de ne vivre qu'en effectuant des actes de visée intentionnelle. C'est très difficile à préciser. Hein. Je crois que c'est encore l'intuition, c'est l'unité. Je crois que c'est ça. Ce qui demeure au-delà de la succession. La personne, c'est pas du tout quelque chose de successif. C'est quelque chose qui structure toutes nos activités. Mais c'est dans nos activités seulement qu'on saisir la personne. On ne peut pas saisir la personne en dehors des activités. C'est à partir de ces activités que nous saisissons la personne. Et on la saisit comme étant le noyau de toute cette diversité. La personne se définit encore comme conscience concrète de, conscience de soi, de sa propre valeur, à condition de préciser que ce concept ne s'applique qu'à partir d'un certain niveau de développement est une certaine domination par laquelle on est le maître de son propre corps. C'est pas le corps, c'est évident, mais dans lequel le corps est comme un avoir, il est dominé. En ce sens, on comprend comment la personne est condition de toute moralité. Bon et mauvais sont des valeurs de la personne. Et la personne elle-même est la valeur des valeurs. C'est dans l'amour que la personne se révèle à nous et accomplit son salut. Et cet amour se fonde dans l'amour de la personne des personnes. En dernier lieu, de la personne des personnes, c'est-à-dire Dieu. La personne est un être individuel et sa valeur est individuelle. Mais elle est de façon également primitive membre d'une personne commune. Oui, autrement dit, on reste dans une description. Alors on essaie de saisir ce noyau particulier. Alors, je vais, il y aurait intéressant, mais ça n'a pas quelque chose de particulièrement significatif. Regardez la personne chez Bergson. problème dominant. Je vais tout de suite regarder avec Heidegger, parce que ça me semble plus important. La question de l'être et de la personne, c'est toujours cet abandon de la métaphysique qui revient chez Heidegger comme ontologie fondamentale. Puisque vous savez bien, Heidegger considère que la métaphysique, ce qu'on appelle métaphysique, c'est-à-dire l'être de l'étant, c'est pas l'être, mais c'est l'étant et l'être. C'est ça que fait la métaphysique. Tandis que l'être, tout court, c'est penser l'être. La métaphysique, pour Heidegger, est terminée. Il y a eu un enterrement de première classe. Très très grand. Il ne dit pas du tout qu'elle ne devait pas exister. Elle devait exister. Il fallait nécessaire qu'elle existe. Mais elle est terminée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, disons plutôt philosophie première, pour ne pas agacer les Heideggeriens, disons philosophie première. C'est du reste le terme. Beaucoup mieux, il vaut mieux prendre le terme de philosophie première que de prendre métaphysique. Qui métaphysique a une saveur aujourd'hui diverse. Alors, disons philosophie première, en sachant très bien que c'est une métaphysique. C'est le terme d'Aristote. Donc on restitue tout simplement, parce que ce sont les bibliothécaires qui ont appelé métaphysique. Là, les bibliothécaires étaient d'ordre pratique, et ce sont les bibliothécaires qui ont baptisé la philosophie première d'Aristote en l'appelant métaphysique, tout simplement parce qu'elle venait après la physique. Tout simplement, c'est d'ordre tout à fait pratique, elle vient après. Tandis que si on dit philosophie première, on qualifie, on veut montrer ce qu'elle est. Philosophie première, Husserl l'emploie. Donc, c'est très à l'ordre du jour. Je fais de la philosophie première. Ce qui est très curieux, c'est très très curieux, c'est là où on voit très bien que il y a des choses qui restent, vous voyez. Heidegger refuse la métaphysique, ou indique que la métaphysique est terminée. La métaphysique telle qu'il l'entend, c'est-à-dire la métaphysique de Wolf. Métaphysique rationnelle, elle est terminée, je suis tout à fait d'accord. Il ne faut surtout pas y revenir. L'enterrement de première classe, c'est Wolf. Mais à la place de dire philosophie première, parce que ça s'arrêtait dans le sens de Husserl, il dit ontologie fondamentale. Oui. Vous savez bien, ce sont toutes les expressions qu'il faut essayer de comprendre pour laquelle on a appelé la métaphysique. On l'appelait philosophie première, on l'appelait métaphysique, on l'appelait ontologie. Bon, il faut savoir, quand on vous dit je fais de l'ontologie, et Heidegger appelle ontologie fondamentale. Ça fait encore mieux. Le fondement de toutes les ontologies, donc l'ontologie fondamentale. Alors, c'est très intéressant de regarder les étymologies de ces termes et de voir comment chacun de ces termes a eu quelque chose de particulier et de voir comment est née anthropologie, comment le problème d'aujourd'hui se situe autour de la personne. La personne est-elle, fait-elle partie de l'ontologie fondamentale. Heidegger estime que toutes les recherches et toutes les interrogations qui jusqu'à présent ont eu le Dasein pour objet ont manqué le problème proprement philosophique. Il se propose de montrer tout d'abord comment, en parlant d'un moi et d'un sujet immédiatement donné, on manque absolument la réalité phénoménale du Dasein. On retrouve la même opposition, vous voyez. C'est un leitmotiv. L'être en soi, la chose en soi, la substance, tout ça, c'est une vieille casserole qu'il faut supprimer et enlever. C'est la même opposition. Si vivement que l'on s'oppose à toute idée d'une substance de l'âme, à toute réification de la conscience, l'idée même de sujet continue de participer ontologiquement à la position d'un subjectum, d'un sujet. Hypokaimenon, il faudrait d'abord éclaircir la provenance ontologique de l'idée de chose avant d'en venir à se demander ce que l'on peut entendre positivement lorsqu'on parle de l'être non chosifié, du sujet, de l'âme, de la conscience, de l'esprit, de la personne. Ces divers concepts désignent tous des domaines phénoménaux déterminés et explorables, mais leur application va toujours de pair avec une remarquable indifférence à toute interrogation sur l'être de l'étang ainsi désigné. Donc ceci c'est pour rappeler que si on entre dans le problème de l'être, on dépasse toujours ce que Sartre appellera l'être en soi. Ce qu'on peut appeler le sujet, ce qu'on appelait les réalités que nous voyons. Ce n'est donc pas par souci d'originalité terminologique que Heidegger évite l'usage des termes sujet, conscience, âme, esprit, personne, vie et homme pour désigner l'étang que nous sommes nous-mêmes et par souci de vérité. C'est l'être de la personne qui l'intéresse. Ah oui, donc voilà le problème repris dans sa profondeur métaphysique. C'est l'être, c'est pas le sujet à la manière de Boès. Oui, vous avez dit les vieilles casseroles métaphysiques qui ont été tellement usées, ça devient plus des sujets. Alors, c'est tout à fait propre à Heidegger de redécouvrir l'être, ça il faut le reconnaître, de remettre l'être en valeur. Et c'est l'être de la personne qui l'intéresse, aussi estime-t-il, que les interprétations qu'un Husserl ou un Max Scheler, si différentes soient-elles, donnent de la personnalité, ont ceci de commun qu'elles omettent de poser la question de l'être même de la personne. Ce qui est très vrai, on demeure dans l'intentionnalité. Or, ce qu'il y a de plus assommant pour Heidegger, c'est de demeurer dans l'intentionnalité. Heidegger veut nous expurger de toute intentionnalité. Il y en a soupé avec Husserl. Il veut sortir de ça. Intuition directe de l'être sauvage. Saisir l'être, et saisir l'être comme tel, c'est ça qui l'intéresse, tout le reste. Pour Heidegger lui-même, la question fondamentale est celle de l'être du Dasein. Et ce qui déforme et égare la question fondamentale du sens du Dasein, c'est une dépendance constante à l'égard de l'anthropologie antico-chrétienne, dont les fondements ontologiques sont insuffisants. Mais par rapport au problème de la personne, c'est ça qui nous intéresse. Il faut redécouvrir quelque chose de nouveau, parce que ça a été perdu, au sens de l'être du Dasein. C'est, je crois, cela fait comprendre son problème premier de l'être de la personne. Cette anthropologie s'est élaborée à partir de la définition grecque de l'homme comme animal raisonnable et du principe conducteur d'ordre théologique fourni par la Genèse, créons l'homme à notre image et ressemblance. Et la dogmatique chrétienne n'a jamais voulu poser le problème ontologique de l'être de l'homme. L'être de l'homme a été oublié lorsqu'on s'est efforcé de déterminer l'essence de l'étant humain. Dès que vous restez dans l'étant humain, eh bien vous quittez l'être. Oui, ça c'est constant, Heidegger. Il faut bien comprendre la ligne de partage. Donc la question de l'être de l'homme a été oubliée. Comme l'être est oublié tout court. Donc la question de l'être de l'homme a été oubliée lorsqu'on s'était forcé de déterminer l'essence de l'étant humain. Au contraire, cet être a été compris naturellement comme un être subsistant tel que celui de toutes les autres choses réelles, de toutes les autres choses créées. Heidegger précise ensuite que les fondements ontologiques de l'anthropologie, de la psychologie, de la biologie voient de pouvoir être induits hypothétiquement des matériaux empiriques doivent toujours être déjà là lorsque commence la collation de ces matériaux. Il s'agit donc de déterminer cet a priori, non pas de le construire, mais de le rechercher. Et pour Heidegger, l'horizon immédiat qui doit s'offrir à l'analyse du Dasein est la banalité moyenne et quotidienne, qui est un mode d'être du Dasein. C'est assez particulier, assez difficile. Bien saisir ce que c'est que l'être de la personne. Ce qui est intéressant, c'est ça qui est intéressant avant tout, j'allais dire, c'est pas tellement les résultats, c'est la question. Vous voyez ? Et je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il renouvelle une question fondamentale, l'être. Et pour lui, la personne, c'est le lieu de l'être. S'il y a un problème qui nous intéresse, c'est bien celui-là. Heidegger précise ensuite que les fondements ontologiques de l'anthropologie donc, doivent être surgés dans ce mode d'être du Dasein. Dans la perspective de Heidegger, la détermination essentielle de l'homme s'exprime dans la fameuse formule « la substance de l'homme ». Et l'existence, qui signifie ceci, la manière dont l'homme, dans sa propre essence, est présent à l'être, et l'instance extatique dans la vérité de l'être. L'instance, donc, instare, dans l'extase. Alors, comprenez ce que c'est. Si vous arrivez à bien saisir ça, qui signifie ceci, donc la substance de l'homme et l'existence, c'est une des affirmations de l'existentialisme, l'existence est antérieure à l'essence, pour l'homme, c'est-à-dire pour l'esprit. C'est la division qu'on retrouve tout le temps chez Sartre, c'est la division capitale, il faut bien saisir qu'il reprend. C'est très rare que Heidegger reprend quelque chose. Mais ça, il le reprend. La substance de l'homme est l'existence. Existence. Il faut bien voir, c'est pas du tout existence ou acte d'être. C'est existere. C'est-à-dire toujours être à côté de la chaise. Il faut bien. C'est le propre de l'homme. Quand vous êtes assis, c'est le bourgeois qui est assis. Il faut rester le fils de. On est existere. On est situé au-delà. On est situé en delà. Qui signifie ceci ? Alors c'est ça qu'il faut bien saisir. La manière dont l'homme, dans sa propre essence, est présent à l'être. Donc la manière dont l'homme, dans son essence, est présent à l'être. Comment est-il l'être ? Et l'instance extatique. C'est de lui, hein, c'est pas moi qui invente ça. L'instance extatique dans la vérité de l'être. La vérité, c'est le dévoilement de l'être. Alors, l'instance extatique, c'est de demeurer dans l'extase. Donc, la personne, c'est ce qui demeure dans l'extase, dans la vérité de l'être. Et c'est ça qui fait comprendre que c'est. Vous voyez, on retrouve bien quelque chose de vivre, l'expérience vécue au niveau de l'amour, l'extase. Mais ce n'est pas l'extase au niveau psychologique, c'est l'intase dans l'extase. C'est ce qui demeure dans l'extase. C'est le dévoilement de l'être dans l'extase. Comme, alors il y a quelque chose de très intéressant là-dessus. L'homme n'est parfaitement lui-même que dans l'amour qui est extatique. Donc dans la sortie de lui. Mais la sortie de lui, c'est au moment où il pousse lui-même. Donc c'est l'intase de l'extase. Si j'essaie de comprendre ces jeux de mots, là, il dégraine beaucoup, hein, il aime beaucoup ces jeux de mots. Là, il faut essayer de comprendre ce qu'il y a au-dessus de ces jeux de mots. Qu'est-ce que ça veut dire, le fait de demeurer, parce qu'il y a toujours cette idée de demeurer, c'est extraordinaire. C'est là où Platon joue un rôle extraordinaire. On rejette, soi-disant, la substance aristotélicienne, sujet dans la scolastique, pour retrouver ce qui demeure. Et c'est ce qui demeure qui reste l'aspect le plus important. Donc, ce qui demeure, c'est l'immanence. L'immanence dans l'extase. L'immanence dans l'extase, puisque c'est l'instase dans l'extase. Dans la vérité de l'être, en déterminant ainsi l'essence de l'homme, Heidegger ne veut pas rejeter les interprétations de l'homme comme animal raisonnable, comme personne, comme être spirituel doué d'une âme et d'un corps, mais il veut montrer que ces interprétations humanistes, c'est-à-dire psychologiques, qui sont de fait les plus hautes déterminations humanistes de l'essence de l'homme, n'expérimentent pas encore la dignité propre de l'homme. Ceci, c'est très juste. C'est quand vous restez uniquement au niveau de la culture humaniste, vous ne touchez pas la dignité véritable de l'homme. C'est ce qu'il appelle l'oubli de l'homme. On est resté dans un aspect, si vous voulez, ou logique, où on est resté dans un aspect ne définit pas, qui ne touche pas l'être, qui reste trop formel. C'est dans ce sens que Heidegger est contre l'humanisme. Mais s'il pense contre l'humanisme, c'est parce que l'humanisme ne se situe pas assez haut, ne situe pas assez haut l'humanitas de l'homme. L'humanité de l'homme, alors on met en latin, ça fait mieux. L'humanité de l'homme exprime donc, vous voyez, quelque chose de l'être de l'homme. Je vous cite ce passage de Heidegger. La grandeur essentielle de l'homme ne repose assurément pas en ce qu'il est la substance de l'étant comme sujet de celui-ci, pour dissoudre dans la trop célèbre objectivité en tant que dépositaire de la puissance de l'être, l'être étant de l'étant. L'homme est bien plutôt, alors voilà, on rejette ça c'est l'humanisme. Mais l'humanisme est lié à la métaphysique classique de Wolff, c'est ça qu'il faut comprendre. Un humanisme qui est au fond une métaphysique liée aux idées. Ça qu'il ne peut pas supporter. pas supporter cette métaphysique où l'idée est antérieure à ce qui est. C'est juste, il y a là quelque chose de juste comme réaction, qui est très difficile à bien comprendre, hein, parce qu'au fond, on est tous empêtrés dans un humanisme effrayant de culture et d'a priori. Alors c'est ça qui veut briser. Et je comprends que c'est pas commode. Alors il essaie, à sa manière, l'homme est bien plutôt jeté par l'être lui-même dans la vérité de l'être. Alors, c'est difficile à comprendre. Afin que, existence de la sorte, il veille sur la vérité de l'être, pour qu'en la lumière de l'être, l'étant apparaisse comme étant qu'il est. L'homme est le berger de l'être. C'est ça la personne. Et l'homme n'apparaît comme personne que comme il est berger de l'être. Alors qu'est-ce que ça veut dire, berger de l'être? C'est une métaphore, c'est évident. Lotz, qui est un des grands commentateurs d'Heidegger, écrit: l'homme comme personne est essentiellement ontologique, c'est-à-dire qu'il est l'étant dont l'acte d'être atteint l'être comme tel. Cette logomagie atteint l'être comme tel par son acte d'être. L'être est ouvert, et par l'ouverture d'être, son acte d'être est possible. Toujours l'être ouvert apparaît comme le logos ou fondement de l'étant déterminé qu'est la personne. C'est encore moins clair que Heidegger. Je trouve, du moins, j'aime mieux le langage de Heidegger que celui de Lotz. Enfin, qui veut retrouver dans Heidegger quelque chose de la scolastique, quelque chose de la pensée classique, quelque chose de l'humanisme, d'ordre ontologique? La personne participe à l'absolu de l'être. C'est ce qui fait sa dignité absolue. Ce que Lotz veut montrer, c'est que l'ontologie ne peut être pleinement elle-même que quand elle est personnelle, et que la personne ne peut être elle-même que quand elle est ontologique. Alors, l'intérêt de cela, c'est qu'on veut à tout prix sortir de la personne au niveau humaniste et redécouvrir la personne au niveau ontologique. Dite métaphysique ad intra, métaphysique, on veut montrer le lien de la personne et de l'être. Je crois que c'est ça l'intérêt. Et alors là, il y a quand même quelque chose de très important, parce que c'est le souci de ne pas abandonner la personne à l'anthropologie, c'est-à-dire de laisser la personne uniquement au niveau éthique, au niveau rationnel. Et c'est le grand reproche que fait Heidegger à l'humanisme, d'avoir enfoui la personne dans l'anthropologie. Kant. Il faut aujourd'hui redécouvrir la personne au niveau de l'être. Oui, je crois que l'intention est très juste. Celle de Heidegger comme celle de Lotz, parce que là il est disciple de Heidegger. Alors il essaie de montrer que, de fait, il faut essayer de comprendre dans la personne son fondement ontologique, et non pas regarder la personne uniquement au niveau anthropologique. Vous voyez, on est au cœur du problème actuel, ça, du moins, de ceux qui essaient de garder une ontologie, de voir le lien avec l'anthropologie, et de montrer que la personne doit être saisie au niveau proprement de l'être.